s'il vous plaît. Au verset 1. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen.
Merci, Christopher. Avant de considérer avec vous ce passage que nous avons lu ensemble ce matin, j'ai deux choses que j'aimerais faire. Le premier, c'est de vous lire une lettre. Avez-vous suivi les nouvelles sur la Côte d'Ivoire depuis quelques semaines? Moi, j'ai des amis en Côte d'Ivoire, je l'ai visité. J'ai travaillé là 2 semaines environ. Notre frère et sœur Adama et Anne ont vécu là, n'est-ce pas? J'ai un ami là-bas qui s'appelle Jules Waba, qui dirige un ministère de publication de livres, avec qui j'ai un bon partenariat. Et voici qu'est-ce qu'il m'a écrit. « Bien cher Douglas, merci du soutien constant dans la prière. Nous en avons vraiment besoin ces jours-ci, car la situation est très tendue entre les deux armées qui se combattent violemment au mépris des populations civiles et innocentes. En effet, depuis 3 jours, nous n'avons pas mis les pieds dehors. Nous sommes enfermés et les détonations des armes sont d'une violence inouïe autour de la situation, la station et du centre de publication évangélique. D'ailleurs, le 2e et 3e étage de l'immeuble administratif du centre de publication évangélique ont été partiellement détruits par des tirs aveugles d'obus. La radio Fréquence Vie, œuvre de la CIM, œuvre évangélique, a également son toit partiellement détruit par un obus. Or, nous habitons dans la villa basse, collée à la chambre où vous avez logé, j'ai couché là pendant 2 semaines, qui est située entre ces deux bâtiments touchés par des tirs. Nous sommes infiniment, infiniment reconnaissants à Dieu qui nous a mis à l'abri jusque-là. Certains de mes collaborateurs qui ont fui leurs quartiers respectifs suite aux violences sont logés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Ils sont également épargnés pour le moment. Le CPE est donc provisoirement fermé. Vous avez lu dans le journal 800 personnes tuées dans un village, massacrées pour le fun. C'est très violent. Grand peuple de Dieu, très touché par sa guerre civile. Canada a envoyé 6 avions en Libye. Je ne suis pas un politicien, mais j'aurais préféré que ça en aille en Côte d'Ivoire. La situation est plus grave, puis... J'aimerais ça demander à Adama de prier, de conduire la prière pour la situation en Côte d'Ivoire, pour le peuple de Dieu nombreux là qui souffre, qui manque de nourriture, qui manque de l'eau. Tu nous conduis la prière, Adama?
Thank you.
Amen. Puis, il y a un baptême ce soir. Puis j'espère qu'il y aura du monde debout ici. On est une grande famille. Je me souviens quand il y avait des baptêmes en 1970-1968, quand Jésus vit dans l'Assemblée, il ne manquait pas une personne dimanche soir au baptême. C'est-tu vrai ça? C'est-tu vrai, Mme Gay? Mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas de hockey ce soir, puis le Canadien a gagné hier soir. Il n'y a pas de raison de rester chez nous. C'est notre place ce soir. Nous avons, si je comprends bien, deux frères qui se sont donnés au Seigneur. Quelle joie dans ce monde compliqué. Puis soyons ensemble pour se réjouir de la bonté du Seigneur ce soir. C'est important. Bon, notre question ce matin, est-ce que Dieu a abandonné Israël? On raconte l'histoire suivante, un homme qui a visité une église au sud des États-Unis, puis il parlait avec quelqu'un, puis il dit, « Il me semble que vous avez un nouveau pasteur, un nouveau prédicateur. » Puis il a dit, « Oui. » Mais il dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais il dit, « Notre ancien pasteur, il parlait tout le temps des peines éternelles, de l'enfer, il parlait du monde qui allait brûler pendant l'éternité. » Puis on l'a mis dehors. Puis ils ont dit, « Ouais. » Puis ton nom nouveau, il ne parle pas de ça. Oh, il en parle plus que l'autre. Mais vous allez mettre dehors, oh non, on va le garder, celui-là. Mais c'est quoi la différence? Mais il dit le premier, il parlait de ça, puis il riait, puis il trouvait ça fun, puis il trouvait ça drôle. Puis le deuxième, il pleure lorsqu'il parle de ça. Je trouvais ça intéressant. Dans ce passage, nous avons l'apôtre Paul qui pleure. On va regarder ce passage sous trois thèmes. Nous avons l'introduction et nous allons ensuite regarder la passion de Paul, puis ensuite les privilèges de Paul, ensuite la personne de Christ, puis enfin on va avoir une conclusion. Commençons par l'introduction. Mettons-nous dans le contexte du livre de Romains ici, au chapitre 8, l'apôtre Paul, puis ça fait des mois qu'on est dans le chapitre 8, l'apôtre Paul nous avait rassuré selon la sécurité de notre salut, de la persévérance des saints. Il nous a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous avait dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni domination, les choses à présent, les choses à venir, les puissances, ni hauteur, profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a dit, Jésus, lui qui, Dieu le Père plutôt, qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi, pas aussi, toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quel bel enseignement que Paul a donné sur la sécurité du croyant. Puis là, on entend Paul au chapitre 9 qui ouvre une sorte de parenthèse, on pourrait le dire, mais quand même, en excellent pédagogue, aussi vous enseignez, faites cela, il anticipe les objections et les questions de ceux qui lisent sa lettre, puis il dit quelles questions qu'ils vont se poser, puis les questions que ses écouteurs et surtout ceux qui étaient juifs à Rome, dans cette grande ville, puis il y en avait beaucoup dans l'église de Rome qui étaient juifs, ils vont se dire, oh oui, Dieu ne va pas nous abandonner, mais, Dieu a abandonné les Juifs. Dieu a fait toutes sortes de belles promesses, un peu comme les promesses qu'il a faites au chapitre 8 de Paul. Il a fait ces promesses-là au peuple des Juifs. Puis Jésus-Christ est venu, puis les Juifs l'ont rejeté, puis Dieu a rejeté les Juifs, puis les Juifs ne suivent pas Dieu. Alors si Dieu a abandonné les Juifs, il pourrait nous abandonner nous aussi. L'apôtre Paul répond à ces arguments-là dans les chapitres 9, 10 et 11. Paul va donner cette réponse à cette objection dans les passages que nous allons voir dans les mois qui viennent. Et d'abord, dans les versets 6 à 24 du chapitre 9, il va dire ceci, « Dieu n'a pas manqué dans ses buts historiques envers Israël. Dieu est souverain puis accomplit ce qu'il veut, parce que tous ceux que Dieu a élus pour être sauvés seront sauvés. » Ça, c'est son argument au chapitre 9. Vers la fin du chapitre 9, dans les versets 25 à 29, il va porter l'argument suivant. Dieu n'a pas manqué dans ses buts historiques envers Israël parce que Dieu avait déjà révélé que ce n'est pas tout Israël qui serait sauvé, mais que certains non-juifs seraient sauvés. Ouh. Non, 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 ce n'est pas Dieu qui manque son coup. Dieu avait déjà prévu cela. Dans les versets chapitre 9, 30 jusqu'au chapitre 10, 21, Paul va dire ceci. Dieu n'a pas manqué dans ses buts historiques envers Israël parce que le refus d'Israël de croire est leur propre faute, pas celle de Dieu. Vous savez que je crois beaucoup à la souveraineté de Dieu. Même dans le salut, je crois à la souveraineté de Dieu, mais je crois à la responsabilité de l'homme. Et Paul va dire, les Juifs ont refusé d'écouter, ils ont rejeté, et c'est leur faute, ce n'est pas la faute de Dieu. La doctrine de la souveraineté de Dieu ne rend pas Dieu responsable du péché de l'homme. Quatrièmement, dans Romains chapitre 11, verset 1er, Paul va nous dire, Dieu n'a pas manqué dans ses buts historiques envers Israël parce que certains Juifs, l'apôtre Paul en est un exemple, ont cru et ils sont sauvés. Cette semaine, j'ai eu entre mes mains un beau livre qui est l'histoire des premiers Juifs au Canada. Et les premiers Juifs au Canada ont vécu à Trois-Rivières, puis s'appelait Hart. Puis sais-tu qu'une des descendantes de la famille juive, une des députées à Québec, était nommée Hart. On a refusé de lui permettre de siéger pendant un certain temps dans le Parlement du Québec parce qu'il était juif. Mais Paul Hart, qui est ici en arrière, est un juif descendant de ces familles juives-là. Nous avons un juif converti ici dans notre assemblée. Mais oui, il est juif quand même. Là. Mais Paul était juif, puis était converti, puis Paul dit le fait que certains juifs se sont convertis est une preuve que Dieu a accompli ses buts. Cinquièmement, dans Romains 11, versets 2 à 10, Paul nous enseigne que Dieu n'a pas manqué dans ses buts historiques envers Israël, parce qu'il a toujours été vrai que ce n'est pas tous les juifs qui seront sauvés, mais seulement une reste. J'aime pas ce mot-là en français, reste, en anglais ils ont remnant, que je préfère, mais c'est le seul mot que je peux trouver. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie. Élie, qui après avoir confronté Achab, après avoir tué les prophètes de Baal puis d'Astarté, il commence à bouder, puis il dit, « Oh, je suis resté seul de fidèles en Israël. » Puis Dieu lui parle, puis dit, « Élie, tu exagères. On fait tout ça lorsqu'on boude. On fait toujours ça lorsqu'on est déprimé. On exagère. Élie, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il y a 7000 hommes qui n'ont pas pris le genou devant Baal, cet faux Dieu, cette idole. Hey, 7000, wow! Beaucoup plus qu'Élie seul. Il y avait combien de Juifs à cette époque-là? Certainement des centaines de milliers. Alors, 7000 hommes fidèles dans cette nation-là de centaines de milliers, je pense même on pourrait dire 2 millions de population, ce n'est pas beaucoup. Il y avait une reste. C'est toujours le principe de l'Ancien Testament, c'est que Dieu a appelé une partie de la nation. Ça, c'est l'argument de Paul ici. Sixièmement, Dieu n'a pas manqué ses buts, dans ses buts historiques envers Israël, parce que le salut des non-juifs, qui est lu maintenant, c'est nous ça, hein? Qui est lu maintenant, a comme but de provoquer la jalousie d'Israël et ainsi être une moyenne pour le salut de certaines. Ça, c'est Romains 11, chapitre 11 à 24. Puis le septième, Dieu n'a pas manqué dans ses buts historiques envers Israël, parce qu'enfin, tout Israël sera sauvé et donc Dieu accomplira ses promesses envers Israël comme nation. Excuse-moi, petite bébé, d'avoir crié trop fort. Ça, c'est notre introduction, ce que nous allons voir dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, probablement. Parlons maintenant de la passion de Paul. On l'a lu tantôt. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans mon cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Remarquons d'abord le contraste entre la haine des Juifs et l'amour de Paul. Vous connaissez l'histoire de Paul. lapidé à quelques reprises. Lapidation, on mettait un homme dans une troupe et on lui échappait des pierres. Pas assez grandes pour le tuer du premier coup, mais assez grandes pour lui faire mal jusqu'à ce qu'il meure après la souffrance. Paul était battu de verges par les Juifs. 40 verges, 40 coups moins une. 39 coups. Paul a été livré à la justice romaine en espérant le faire mourir. Il a passé des années, au moins 2 ans en Césarée, puis 2 ans en Rome, en prison à cause des faux témoignages des Juifs. On le suivait partout. On le traînait dehors des villes pour le lapider. On l'haïssait. On a fait des complots pour le tuer. Il y a des jeunes hommes qui se sont rasés la tête et ont dit « On ne mangera plus jusqu'à ce qu'on ait tué Paul. » On l'haïssait. Puis malgré la grande haine que les Juifs avaient envers Paul, lui, il les aimait profondément. Quel bel contraste que nous avons ici. Puis pensons ici, on ne peut pas lire ce passage sans penser à l'exemple historique de Moïse. Moi, je suis certaine que dans ce passage ici, où Paul tourne beaucoup vers la population juive dans l'église de Rome, Paul donc fait une référence pas tellement cachée, quand même assez claire pour quelqu'un qui est juif, qui connaît l'Ancien Testament. Dans ses paroles, il fait référence à Moïse. Vous vous souvenez de Moïse qui est descendu de la montagne de Sinaï après avoir reçu les 10 commandements, les 2 tablettes de pierre. Puis voilà que le peuple de Dieu, les Juifs, sont déjà en train d'adorer une idole puis se livrer à l'immoralité dans leur forme d'adoration au culte qu'ils avaient pris en Égypte. Même pendant que Dieu a donné les 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », ils avaient déjà commis ce péché-là. Puis Moïse descend en bas de la montagne, puis dans la colère, il brise les tablettes de pierre. Dieu lui donne d'autres tablettes, puis Dieu dit, « Tasse-toi, Moïse, je vais faire de toi une autre nation, puis cette nation-là, je vais les détruire. » Puis Moïse intercède pour son peuple. Puis Moïse dit, « Détruis-moi, envoie-moi à l'enfer, mais sauve mon peuple. » Vous connaissez l'histoire, Exode 32. Puis il dit à Dieu, « Si je vais conduire ce peuple, je veux te voir, je veux voir quelle sorte de Dieu que tu es. » Puis Dieu se révèle à lui et dit, « Je suis un Dieu de miséricorde et de compassion. » Paul fait référence à cela. J'aimerais faire ici, poser 4 questions et faire 4 applications. D'abord, je vous pose la question. Sommes-nous empreintes de chagrin et de tristesse devant l'état spirituel des autres? On marche dans nos rues, on regarde nos voisins, on conduit notre voiture, on va au travail, on va au magasin, on regarde autour de nous, puis on est entouré de personnes qui sont dans la perdition, qui ne connaissent pas Dieu. Puis est-ce que cela nous dérange? Est-ce que ça nous dérange? Mon beau-père était un grand homme de Dieu. Il me disait que lorsqu'il avait 14, est-ce que c'est 14 ou est-ce que c'est 12 ans, il est venu à Jésus. Puis il marchait dans les rues de sa petite village où est-ce qu'il habitait, puis devant chaque maison, il pleurait parce qu'il y avait du monde qui ne connaissait pas Dieu. Il était un grand évangéliste toute sa vie. Lors de ses funérailles, des vingtaines de personnes étaient là qui l'avaient conduit au Seigneur, puis si l'Église avait été plus grande, il y aurait eu des centaines. Est-ce que nous sommes dans le chagrin et la tristesse devant l'état spirituel des autres? Vous connaissez l'histoire de ces 2 lépreux qui, lorsque les murs de la ville de Samarie étaient entourés d'une armée, puis tout le monde a crevé de faim à l'intérieur, ils sont sortis. Puis l'armée de la Syrie était partie par la crainte. Puis il y avait plein de nourriture là. Puis ils ont commencé à manger. Puis l'un des lépreux dit aux autres, « Mais ce n'est pas convenable. Nous avons ce grand repas. Puis dans la ville, tout le monde crève de faim. Il faut retourner dans leur ville puis les informer. » Vous vous souvenez de cette histoire-là? Hein? Puis nous aussi, nous avons cette responsabilité-là. Puis je trouve que dans mon propre cœur, ce n'est pas ma priorité puis ce n'est pas correct. Sommes-nous empreintes de chagrin et de tristesse envers nos proches, pas juste nos voisins et ceux qu'on ne connaît pas dans notre ville, mais ceux qui sont proches de nous? Troisièmement, sommes nous empreintes de chagrin et de tristesse envers les grands pécheurs. Hein? Il y a des personnes dans notre ville qui sont des grands pécheurs, des personnes qui ont fait beaucoup de mal. Paul ici est rempli de peine pour ceux qui lui avaient fait du mal. Est-ce que nous sommes comme ça? Lorsque les autres nous font du mal, est-ce qu'on les haït? Est-ce qu'on les hait? Ou est-ce qu'on réalise qu'ils sont des personnes perdues qui ont besoin de notre amour? Puis enfin, sommes-nous empreintes de chagrin et de tristesse envers les grands privilégiés? Paul va parler de ça tantôt. Deuxièmement, j'aimerais vous parler des privilèges d'Israël. Paul va dire, mon peuple a eu des grands privilèges. Il va parler, par exemple, de l'adoption d'Israël comme fils. Je vais vous le lire. Mes frères sont les Israélites qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de ce qui est issu selon la chair, le Christ. Ça commence par l'adoption, oui, comme père de fils adopté, comme père d'une fille qui a fait partie de notre famille. C'est proche à moi, cela. Et Israël n'était pas le peuple de Dieu. D'ailleurs, Abraham, qui vivait dans la ville d'Ur, adorait la lune. C'était des idolâtres. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ce n'était pas le peuple de Dieu. Puis Dieu les a choisis, puis les a adoptés, puis a fait de leur, son fils, ses fils, les enfants d'Israël. Israël était son fils. Puis il n'a pas choisi Israël parce que c'était le plus nombreux du peuple, ni le plus intelligent du peuple, des peuples, ni le plus beau, ni les moins pécheresses. Il les a choisis simplement parce qu'il les aimait. Dieu choisit, puis on ne sait pas pourquoi. Israël a eu le privilège d'être adopté par Dieu comme son fils. C'est le seul endroit dans la Bible où on nous dit qu'Israël est adopté. Deuxièmement, la gloire. Imaginez-vous, donc, tous les peuples dans ce temps-là adoraient quelqu'un. Ils avaient tous des temples ou des arbres ou des montagnes, une pile de roches quelconque où ils adoraient quelqu'un. Puis on n'est pas différent aujourd'hui. Les athées aujourd'hui adorent quelqu'un. On adore tous quelqu'un. Hein? On n'est pas capable de vivre sans adoration. On est ainsi fait. Mais le seul peuple qui adorait un Dieu qui s'est manifesté continuellement envers eux par sa gloire, c'est Israël. Lorsqu'ils ont marché dans le désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la colonne de feu, la colonne de fumée qui représentait la présence de Dieu, sa gloire majestueuse, les précédait, les protégeait. Lorsqu'ils ont construit le tabernacle, la gloire de Dieu est descendue entre les deux chérubins sur l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu était continuellement parmi eux. Aucun autre peuple avait le privilège d'avoir la gloire puis la présence de Dieu parmi eux. Ils avaient les alliances que Dieu a traitées avec Noé, surtout avec Abraham, répétées à Jacob. La loi qui était donnée à Moïse, les promesses faites à David, la nouvelle alliance qui est annoncée à Jérémie. Dieu a fait des promesses, il a fait des pactes, il a fait des alliances avec son peuple. Aucun autre peuple sur la terre ne pouvait dire que le Dieu du ciel a fait des alliances pour nous. Aucun autre. Il n'y a qu'une seule femme dans ce monde envers laquelle j'ai fait des alliances. Il n'y a qu'une seule nation sur la terre sur laquelle Dieu avait fait des alliances, Israël. Quel privilège! Le culte au temple. Oh, j'ai eu le devoir, je ne peux pas dire que c'est un privilège, d'étudier les pratiques des religions qui existaient du temps d'Israël. On brûlait des enfants sur Moloch. En cette année, aux actes sexuels avec des prêtresses dans des temples. Dans chaque ville, des jeunes femmes, chez les Phéniciennes surtout, chez les Ammonites, Une femme, avant de se marier, devait se donner 6 mois de service dans un temple pour travailler comme prostituée. Il n'y avait pas une femme dans ces nations-là qui n'avait pas travaillé comme prostituée dans un temple. Puis quand on adorait Dieu, on couchait avec une prostituée, puis en passant, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des homosexuels, et tout. Puis après ça, on donnait un don au temple. C'est comme ça qu'on faisait vivre le peuple, l'œuvre de leur Dieu. Quelle horrible pratique! Il y a 50 ans, aux Indes, c'était encore le coutume d'amener le premier-né dans la rivière Grange, dans le fleuve Grange, puis le jeter au crocodile comme moyen d'adorer leur Dieu. J'espère que ce n'est plus pratiqué. Puis en Israël, il y avait un temple magnifique. Puis on aurait adoré Dieu sans immoralité, sans sacrifier ses enfants, avec une musique qu'on voit dans les psaumes qui, même après 3000 ans, qu'on chante encore, remplie de sens, prévoyait l'arrivée du Messie, la mort du Christ sur la croix. Quel magnifique culte qu'ils avaient dans leur temple. Aucune autre nation avait ce privilège-là d'avoir là dans leur culte comme acte, comme prévision, comme leçon d'objet de ce que Dieu allait faire un jour avec le Messie. Les promesses, et surtout la promesse du Messie qui devait venir. Les patriarches, surtout ici, Abraham, Isaac puis Jacob. Fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob, quel héritage! Ça doit être populaire, les généalogies. Tous les semaines, j'ai 3 ou 4 offres de faire partie de je ne sais pas quoi, là, pour retracer mes ancêtres. Et c'est sûr que moi, j'ai retracé 4 ou 5 générations derrière. L'été, voilà 2 étés, ma femme et moi, on était dans le sud du Nouveau-Brunswick, on a trouvé la tombe d'un de ses ancêtres 6 générations en arrière dans une petite église pas loin de Moncton, en Nouvelle-Écosse. Ça m'intéresse. Mais les Juifs, là, hey, les généalogies, ils connaissaient pas. Ils connaissaient ça. Lisez le premier chapitre de Matthieu puis Luc, les généalogies des Juifs, c'est important pour eux. C'est encore important aujourd'hui, les généalogies des Juifs, même s'ils les ont perdues. Puis eux étaient descendus d'Abraham. Puis la descendance de Jésus-Christ, le Messie. Imaginez-vous donc que de tous les peuples de Dieu, Dieu a choisi les Juifs pour que son fils soit né de ce peuple-là. Quel privilège! Quel privilège! Sur ce point, une application puis une question. Chers amis, savez-vous que ces Juifs qui avaient tous ces privilèges-là n'étaient pas sauvés? Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient perdus. Des grands privilèges ne sauvent pas. Je le répète, les grands privilèges ne sauvent pas. Serais-je un chrétien de culture, de nom, d'héritage, mais pas une réelle, une authentique? N'oublions pas que ce peuple de Dieu, ces Juifs, nés dans des familles religieuse, née dans une famille où on avait la parole de Dieu, née dans une famille où on enseignait correctement la parole de Dieu. Ces Juifs-là, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont crié, « Crucifiez-le, crucifiez-le, nous ne voulons pas avoir cet homme pour régner sur nous. » Ils ont rejeté le Christ. Et il est possible que vous soyez ici aujourd'hui et que vous fassiez partie d'une famille chrétienne depuis plusieurs générations, d'un peuple québécois qui est supposément chrétien, que vous connaissez la vérité, qu'on vous enseigne la Bible à l'école de dimanche, que vous avez chanté, puis pris des versets, puis vous connaissez la vérité, mais que dans votre cœur des cœurs, vous n'avez pas accepté que Jésus-Christ règne dans votre vie. C'est possible cela. C'est possible. Ces Juifs étaient voués à la perdition, puis vous aussi, si c'est votre cas. Enfin, la personne du Christ. Ce verset, « Et les patriarches de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Le verset 5. Maintenant, je vais vous demander, dans les 10 prochaines minutes, de vous concentrer. Parce que qu'est-ce qu'on va voir là est extrêmement important, peut-être un peu complexe, mais je vous êtes capable de suivre, mais il va falloir vous concentrer un petit peu. OK. Sur le cliché 24, Yannick, je vous ai montré deux façons de traduire ce verset-là. À gauche, nous avons la façon dont ce verset est traduit dans presque toutes les Bibles. C'est de cette façon-là que les pères de l'Église, je pourrais dire sans exception, j'ai fait des recherches assez poussées, j'ai dans ma bibliothèque ça de large, plusieurs volumes avec les écrits du père de l'Église, des pères de l'Église. Puis maintenant, j'ai le privilège de voir sur un logiciel presque tous les écrits des pères de l'Église en forme informatique, donc c'est plus facile de faire des recherches. Voici comment le verset est compris. Bon, les patriarches, dit qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessous de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et si vous traduisez ce verset-là, et si vous le lisez comme ça, c'est très clair que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, qu'il est Dieu béni éternellement. Amen. N'est-ce pas? C'est ça que ça dit. Il y a du monde qui n'aime pas ça. Je vous laisse deviner c'est qui. Et ils le traduisent comme ceci. Et les patriarches de qui est issu, selon la chair, le Christ. Point. Dieu qui est au-dessus de toutes choses est béni éternellement. Amen. Je me souviens que lorsque un témoin de Jéhovah est venu me visiter, et j'avais 16-17 ans, puis il m'a essayé de convaincre que Jésus n'était pas Dieu. Puis j'ai dit, mais oui, mais Thomas, lorsqu'il a vu le Christ ressuscité, puis il a regardé ses mains, puis ses pieds, puis a vu les trous, il a crié, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Puis le témoin de Jéhovah, il a dit, « Oh oui, oui, mais il faut comprendre, là. Thomas a regardé Jésus, puis il a dit, « Mon Seigneur! » Puis il a regardé au ciel, puis il a dit, « Mon Dieu! » OK? C'est ça qui arrive lorsqu'on met des points en mauvaise place. Les points, c'est bien important. C'est bien important. Puis je vous dis carrément que dans la langue originale, dans le grec et dans les manuscrits originaux, il n'y a pas de point, puis il n'y a pas de virgule, puis il n'y a pas de majuscule, puis il n'y a même pas d'espace entre les mots. C'est bien fun de déchiffrer ces manuscrits-là. Je l'ai fait, je sais que c'est quoi. En passant, ce témoin de Jéhovah-là, il était menteur. Il me dit, « Moi, j'ai vu le manuscrit original, puis il y a un point dans le manuscrit original. » Écoute bien là. On ne les a pas, les manuscrits originaux. Il ne les a jamais vus. Puis j'ai vérifié un peu, puis il ne lisait pas le grec, pas un mot, puis pas une lettre. Mais à force de dire le même mensonge assez longtemps, on le croit, n'est-ce pas? Pensez en cela. Bon. Alors, comment comprendre ce verset-là? Est-ce que ce que nous avons ici est une doxologie. Vous connaissez ça, l'expression doxologie? C'est une sorte de louange spontanée qu'on trouve souvent dans le Nouveau Testament. On va regarder des exemples où l'auteur va dire une vérité extraordinaire, puis là, il ne se contient plus, puis de sa bouche, de son cœur jaillit un mot de louange. Alors, Paul est en train, selon cette version-là, Paul est en train de faire une liste des privilèges d'Israël. Puis là, après avoir fini tout cela, il met un point, puis là, il dit, « Ah, quel grand privilège! Dieu qui est au-dessus de toutes choses est béni éternellement. Amen! » Puis ce paragraphe-là n'a rien à faire avec ce paragraphe-là. Vous comprenez comment il l'interprète? Tandis que notre compréhension, nous, c'est que le Christ est le nom, l'antécédent. Vous connaissez ce terme-là? Vous avez pris la grammaire à l'école à un moment donné. Je sais, vous l'avez tout oublié, puis vous avez dormi pendant ces cours-là. Mais tout prénom a un antécédent. Qui, ici, réfère à Christ. Okay? C'est comme ça qu'on l'interprète. Bon. Comment? Je vais vous donner quelques explications de la raison qu'on ne traduit pas comme cela. D'abord, il y a dans le prochain cliché, et j'ai ici, à gauche, j'essaie de mettre, ça c'est comme ça qu'il faut le traduire, ça c'est la fausse traduction que les témoins de Jéhovah aiment tellement. Et ici, voilà des arguments. Premier argument, c'est l'ordre des mots qui suit Christ. Sans aller dans trop de détails, dans le grec, l'ordre des mots est très, très important. L'ordre du mot, des mots donne le sens. Et dans le grec, l'ordre des mots ici est très, très important. Puis si c'est quelque chose que vous voudriez développer, viens me voir, on regarde ça ensemble. Deuxièmement, je vous donne des arguments, puis après ça, on va aller regarder des doxologies dans la Bible. Dans une doxologie, le mot « béni » vient en premier et pas après. Si vous regardez ici, une doxologie, le mot « béni » vient toujours en premier. Vous avez lu les psaumes? « Béni soit Dieu ». Béni soit Jésus, le Fils de Dieu. Vous comprenez, le mot béni vient toujours en premier dans une doxologie. Pas en dernier, comme ça, là. Alors, moi, je vous dis que vu que le mot béni ne vient pas en premier, pas, il ne vient pas là, il vient là, ce n'est pas une doxologie ici. On va regarder des autres doxologies tantôt sur l'écran, vous allez voir ce que je veux dire. Troisièmement, une doxologie n'a pas de place dans ce texte. C'est quoi une doxologie? Mais je l'ai dit tantôt, je vais le répéter, c'est que Paul fait typiquement ça. Il va développer une grande doctrine, quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, qui fait monter en nous un cœur qui est plein de louanges. Puis là, à un moment donné, il ne se contient plus, puis ça saute en louange, c'est une doxologie, on adore Dieu. Vous suivez? Ça, c'est une doxologie. Dans le contexte ici, est-ce que c'est un moment où est-ce que Paul veut faire une doxologie? Il vient de dire ceci. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Sais-tu l'air de parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est exalté en louange puis bien content? Les doxologies viennent toujours à la fin d'un long argument et jamais au début. Puis viennent à un moment donné où ce que c'est clair par les paroles que l'auteur est en train d'écrire, mais oui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il est en train d'écrire que c'est un moment où jaillit la louange dans leur bouche. Vous comprenez là? Ce n'est pas le cas ici. C'est un moment de tristesse, de chagrin dans son cœur. Et quatrièmement, l'expression « salon de chair » demande une antithèse. Gardez votre doigt dans Romains 8, puis tournez avec moi dans Romains 1, s'il vous plaît. Vous allez voir ici. Romains 1, 3. Vous connaissez l'expression « thèse » et « antithèse » Comment le dire, les deux côtés d'une question, en effet. Au verset 3, on nous dit que l'Évangile concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Au verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Vous le voyez, la thèse puis l'antithèse? Il est selon la chair, homme, postérité de David, mais déclaré par sa résurrection d'entre les morts d'être Dieu. Il est homme, il est Dieu. Vous le voyez, thèse, antithèse. Dans Romains chapitre 9, si vous le regardez bien comme il faut, au verset 5, il dit, « Les patriarches de ceux qui sont issus selon la chair de Christ. » Voyez-vous, Jésus-Christ est descendu d'Abraham, d'Isaac, puis de Jacob, puis de David. Selon la chair, il est homme. Ça, c'est la thèse. Puis en structure parallèle avec Romains chapitre 1er, à la fin du verset 6, on nous dit qu'il est aussi Dieu béni éternellement. Cet Dieu est béni éternellement est l'antithèse qui complète la thèse qu'il est descendu des patriarches selon la chair. Bon. Ce passage, en effet, enseigne quatre choses sur le Christ. D'abord, qu'il est un homme. Il est vraiment homme. Deuxièmement, qu'il est Dieu. Il est homme. Il est Dieu. Troisièmement, qu'il est suprême. Ça nous dit qu'il est au-dessus de toutes choses. Christ qui est au-dessus de toutes choses. Puis de plus en plus au Québec, nous avons des religions gnostiques. Ceux qui se sont tués à Batisquin, là, Comment qu'on les a appelés, là? Pardon? L'ordre de temple solaire, merci beaucoup. C'était des gnostiques. Puis pour les gnostiques, Jésus-Christ est un parmi toutes les différentes couches, différents niveaux d'esprit entre Dieu et les hommes. Puis il n'est pas le plus grand, il n'est peut-être pas le plus petit. Puis Jésus, c'est un esprit parmi d'autres. Bien, il y a eu Jésus, puis il y a eu Mohamed, puis il y a eu Belahou, puis il y a une sorte de prophète. Puis Jésus est un prophète comme les autres. Non, 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 non. Jésus est au-dessus de tout, nous dit le passage. Puis quatrièmement, il a le droit d'être loué. Pourquoi qu'on prend du temps pendant chaque réunion pour louer Dieu? Parce que Jésus est digne d'être loué. Regardez quelques doxologies. Romains 1, 25, s'il vous plaît. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, qui est béni éternellement. Voyez-vous ici? Créateur. Puis avec créateur, qui est le nom, vous avez un prénom, qui. Et un prénom doit toujours avoir un antécédent. Le qui doit référer à quelqu'un. Est-ce que qui réfère à créature ou au créateur? Qui réfère au Créateur? Puis cet Créateur-là est béni éternellement. Ça, c'est une louange. Le Créateur est béni éternellement. Remarquez que béni vient au début de l'argument ici. Puis que le qui réfère ici à l'antécédent qui est le Créateur, comme le qui réfère au Christ dans Romains 9. Regardons Romains 11, 36, qui est la fin de cette section que nous débutons. C'est de lui, par lui, que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça réfère à Jésus-Christ. Ça, c'est une doxologie. Si on regarde Hébreux 13, 21. Qui vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et faire sans vous ce qui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Auquel, pronom. C'est quoi l'antécédent? Auquel réfère à quel antécédent? Jésus-Christ, vous me suivez? Vous ne perdez pas? C'est donc Jésus-Christ qui est la gloire au siècle des siècles. Amen. Rappelez-vous de cette bout de phrase-là. Elles reviennent souvent, souvent dans nos doxologies. Alors, encore une fois ici, auquel prénom réfère au nom qui est le plus près, Jésus-Christ. Hébreux 13. Si on regarde en 1 Pierre 4, parce que ce n'est pas juste Paul qui utilise cette forme-là. Afin qu'en toutes choses, 1 Pierre 4, 11. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, dans cette phrase, nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles? Amen. Mais ça réfère à qui ça? Mais qui, par les lois de grammaire, réfère au nom qui est le plus près? Non pas à Dieu, mais à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, à lui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez comment ils sont structurés, les doxologies? Et deux autres, je pense, Éphésiens 3, 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette même expression qui revient. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. C'est à qui le royaume céleste? C'est à Christ, n'est-ce pas, le royaume céleste? À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça revient encore une fois. Chers amis, Jésus est Dieu. Et Romains 9, 5, et en ce qui me concerne, parmi les trois ou quatre versets les plus clairs et les plus importants dans le Nouveau Testament pour nous montrer qui est vraiment Jésus-Christ. J'ai une conclusion. Avant qu'on me conclue en ouvrant la porte, puis que les enfants viennent nous envahir. Conclusion. Êtes-vous vraiment un enfant du Seigneur, une vieille chrétienne? Je le pose ce matin. Je le pose cette question-là. Êtes-vous une chrétienne de nom, de culture, de descendance, ou une vraie chrétienne qui s'est engagée envers Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître? Mais si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, ça presse de régler cette situation-là. Deuxièmement, est-ce que tu sais vraiment qui est Jésus-Christ? Oh, il est le Seigneur des Seigneurs, il est Dieu même. Tout lui appartient, il a créé toutes choses ont été créées pour lui. Troisièmement, est-ce que tu as le cœur d'un évangéliste? Est-ce que j'ai le cœur d'un évangéliste? Le Seigneur m'a beaucoup parlé par ce passage depuis quelques semaines. Est-ce que j'ai le cœur d'un évangéliste? Puis quatrièmement, est-ce que Jésus-Christ occupe la première place dans ma vie? Il m'a permis de poser ces quatre questions-là. Rappelons-nous de qui est Jésus-Christ. Il devrait occuper la première place dans ma vie parce qu'il occupe la première place dans l'univers. Il est boss. Est-ce que ça paraît que Jésus-Christ est boss dans votre vie? Nous prions. Seigneur, nous nous courbons devant toi. Avec les apôtres qui ont écrit la parole de Dieu, nous nous unissons ensemble pour t'adorer, pour te remercier pour Jésus, pour te dire qu'il est Seigneur des Seigneurs. C'est à lui la gloire et l'honneur, le royaume pour toujours et pour toujours, pour l'éternité. Il est Dieu. Examine nos cœurs, Seigneur, pour nous qui sommes des privilégiés. Aide-nous à comprendre qu'avec ces privilèges-là vient une grande responsabilité. Aide-nous à sonder nos cœurs pour être certains que nous sommes vraiment chrétiens, non pas de nom, mais en réalité, que tu règnes en nous, que tu es vraiment notre sauveur. On demande cela au nom de Jésus.